France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Jean-Manuel Escarnot, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez la semaine prochaine chez Robert Laffont, Djihad, c'est arrivé près de chez vous. C'est un livre qui fait suite à plusieurs enquêtes que vous avez menées dans le milieu des djihadistes en France, mais aussi dans le milieu du renseignement. Et vous y racontez notamment l'itinéraire de Nourdine, c'est un jeune originaire de Trappes. Et on va découvrir à cette occasion qu'il y avait, jusqu'à il y a peu en tout cas, en face de la mairie, donc avec Pignon-sur-Rue, une librairie qui servait de façade pour les prêches d'un imam radical, donc au vu et au su de tout le monde. Vous y êtes allé dans cette librairie ?
Ben oui, j'y suis allé avec la famille de Nourdine qui m'a accompagné, qui m'attendait sur le parking. L'arrière-boutique de la librairie servait aussi de point de rendez-vous pour les jeunes qui étaient enrôlés, embrigadés, et qui écoutait les prêches d'un imam, l'imam Marwan, qui parlait du matin au soir du djihad, de la mécréance qui était la vie dans ce pays en France, et qui essayait d'orienter ces jeunes déjà vers le départ sur les zones de djihad, notamment en Irak.
Alors ce qui se passe, c'est que Nourdine finalement va partir en Syrie. Il va passer un coup de fil à sa famille, il part en 2010, mais ouais. Plusieurs années après, il téléphone à sa famille et vous dites, on sent qu'il est tétanisé quelque part, qu'il a peur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Donc Nourdine part en 2013 et effectivement en 2015, il appelle sa famille et il dit qu'il veut rentrer. Il est très inquiet. Alors, fait-il semblant ? Ment-il ? On n'en sait rien, on n'en saura rien parce que deux mois après, il y a une frappe ciblée de la coalition qui lui tombe dessus.
Alors justement, frappe ciblée de la coalition, ça pose la question de comment est-ce qu'on fait, comment les services de renseignement font pour identifier des cibles sur lesquelles elles vont envoyer leurs drones en Syrie. Et là, vous donnez un certain nombre de clés dans votre livre. Alors la première de ces clés, c'est vous laisser entendre qu'il y a parmi les djihadistes français qui se trouvent en Syrie, des jeunes qui travaillent pour les services de renseignement français.
Alors, je laisse pas entendre, j'affirme que effectivement, pour pouvoir droner un type à Raqqa en Syrie, il faut aussi pouvoir le localiser au sol, et pour le localiser au sol, il faut quelqu'un qui mette une balise ou quelqu'un qui donne un top départ, si quelqu'un part dans une voiture, qui donne des coordonnées GPS. Ça se fait avec de l'humain. Cet humain, ce sont des agents, clairement au sol, ce soit des habitants, des Syriens, des habitants des villes de Raqqa, mais c'est aussi des djihadistes français qui, comme me le disait une source militaire, tuent des mécréants et sont des agents qui travaillent pour la France.
C'est vraiment un double jeu.
Un double jeu, ouais.
Et vous donnez une autre clé, vous avez accès à une écoute téléphonique qui montre que le groupe État islamique lui-même s'interroge sur la sincérité de certains Français. Vous parlez de 13 Français, enfin d'une dizaine de Français qui sont soupçonnés par l'État islamique, de jeunes Français djihadistes, d'être justement des agents des services français.
Alors ça, c'est un document absolument hallucinant, une écoute qui fait une dizaine de pages, qui est traitée par la DGSI, qui a lieu en octobre 2014, et dans laquelle Jean-Michel Klein, le frère de Fabien Klein, appelle un...
Qui avait lui-même revendiqué l'attentat du 13 novembre, qui était la voix officielle française.
Ce sont les deux voix, les deux frangins qu'on entend sur l'audio du 13 novembre. Donc Jean-Michel Klein, en octobre 2014, appelle un de ses amis qui est détenu dans une prison française et l'appelle pour plusieurs raisons. D'abord, il s'inquiète de savoir si le dit détenu a parlé du truc qui a l'air de concentrer beaucoup d'activités à Raqqa et autour de la frontière avec des éléments qui se préparent visiblement militairement.
Et le truc, on comprend que c'était le 13 novembre.
Le truc, on
qui était en gestation.
On peut imaginer que c'est le 13 novembre, parce que le truc, ça vraiment, ça les inquiète. Ça fait que Jean-Michel Klein appelle pendant une heure un type en France et s'inquiète de savoir ce qu'il a dit au poulet. Et après, au-delà de ça, la conversation est clairement longtemps orientée sur la parano de l'État islamique face aux infiltrations. Parce qu'effectivement, quand les gars de l'État islamique se font droner sur le terrain, ils se doutent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a du renseignement qui est trop précis, se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand la France entre dans le conflit syrien, l'inquiétude des cadres de l'État islamique qui sont formés à ce type d'opération est de savoir d'où peut venir la traîtrise. Les responsables du service de renseignement, l'AMNI de l'État islamique, se déplacent...
Alors ça, il faut préciser, effectivement, on ne sait pas forcément, mais l'AMNI dont vous parlez, c'est le service de renseignement du groupe État islamique, qui est chargé de détecter parmi ses membres ceux qui sont les traîtres.
Voilà, c'est à la fois, ils sont chargés de détecter les traîtres, mais ils sont aussi chargés des opérations extérieures. C'est l'AMNI qui a permis à l'opération du 13 novembre d'exister. Donc c'est vraiment une structure très importante au sein de l'organisation. Et là, en 2014, ils ont une parano incroyable autour des infiltrations. Donc ils foutent les types dans leur prison à Raqqa. Il y en a une qui s'appelle, dans la région de Raqqa, qui s'appelle Guantanamo, qui a l'air absolument hallucinante et où les types sont torturés. Voilà, l'État islamique, c'est une structure mafieuse qui a son service de renseignement et qui est extrêmement parano avec les Français en 2014.
Oui, les Français ont très mauvaise réputation, oui. C'est ce qu'on comprend dans cette conversation
téléphonique. Ils parlent beaucoup trop, ils parlent trop avec leur famille, ils parlent trop avec leurs copains, ils parlent trop tout le temps. Et en plus, l'État islamique les soupçonne d'avoir des agents infiltrés chez eux.
Alors ça, c'est une possible source de renseignement pour la DGSI, hein, le service de renseignement
français.
La
DGSI,
la DGSE.
Et éventuellement les Américains avec qui on coproduit les frappes de drones.
Voilà, c'est comme ça qu'on a des informations, qu'on les traite et qu'ensuite on planifie des attaques. Alors les informations qui remontent de Syrie, mais vous expliquez aussi que pour trouver des cibles, on passe par des hackers cette fois-ci en France, qui vont pénétrer les ordinateurs des djihadistes en Syrie pour essayer de localiser d'autres cibles. Et ça se fait ici.
Oui, alors ça c'est une rencontre extraordinaire qui d'ailleurs a été aussi le moteur de ce livre. C'est un gars que j'appelle Gabriel et qui est un hacker clandestin recruté par la DGSI en 2014. Pourquoi il le recrute? Pour deux raisons. Parce que il est musulman, il connaît parfaitement la religion, il sait programmer des virus, il sait aller sur le darknet, il sait aller partout, il sait faire péter un compte Facebook facilement, il sait faire péter un compte Twitter, il sait tout faire. Donc,
et il est sans papier.
C'est très important. La DGSI le repère, le recrute sur une opération qui implique des très hauts responsables de l'État français à ce moment-là, sur laquelle le dit Gabriel fait le boulot, réussit le job qu'on lui demande, et ensuite la DGSI lui demande de continuer à travailler pour eux, le recrute tel un agent, et pendant 9 mois, ce gars va continuer à infiltrer les réseaux sociaux, mais aussi aller dans les mosquées, ramener des infos, ramener des coordonnées, montrer parfois que des types qu'on pensait en Syrie arrivent à faire un aller-retour en France. Enfin bref, il fait un boulot extraordinaire. Sauf qu'au bout de 9 mois, la DGSI cesse le boulot avec lui, sans tenir sa parole, sans lui donner de carte d'identité. Ce type-là est toujours dans la nature et attend toujours que la France tienne ses promesses.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous racontez justement ce qu'il fait, ce type-là. C'est un véritable travail souterrain, clandestin. Il va notamment pirater une médiathèque. La mairie refuse de donner les codes d'accès au serveur. Et donc, la DGSI utilise ce hacker pour aller pirater une médiathèque.
Voilà, alors donc, Patrick Calvar, qui est toujours très à cheval sur...
Patron de la DGSI.
Le patron de la DGSI, qui est toujours très à cheval sur la loi, rien que la loi, seulement la loi. Mais sur le terrain, pour effectivement infiltrer et avoir de l'info, la loi, il faut parfois la... passer à côté. Et donc, Gabriel va, l'une des missions que la DGSI va lui donner, c'est de pirater le serveur d'une médiathèque, car plusieurs cibles de la DGSI s'y connectent tous les jours, et la DGSI est très inquiète et veut savoir ce que tout le monde fout là. Donc,
il y a une vingtaine d'ordinateurs en libre service toute la journée.
Et donc là, effectivement, Gabriel va fabriquer un virus, prendre la main sur le serveur, et pendant une semaine, toutes les données du serveur de cet espace public vont être triées, analysées par Gabriel, qui va effectivement repérer que plusieurs individus qui se connectent à l'intérieur de la médiathèque utilisent des ordinateurs de la médiathèque pour se connecter avec des gens en Syrie.
Très bien, ben merci Jean-Manuel Escarnaud. Je rappelle que votre livre « Djihad, c'est arrivé près de chez vous » sortira donc la semaine prochaine et c'est édité chez Robert Laffont.